Bien, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour discuter de cet ouvrage remarquable, Misère de la psychiatrie, de Steve de Mazeux, qui est donc mon collègue au département des philosophies de l'université Bordeaux-Montaigne et qui m'a fait l'amitié de me proposer pour réaliser cet entretien ce soir. Alors, je dois dire que n'ayant aucune compétence sur la psychiatrie, j'étais un peu réticent, mais au départ, mais c'était avant de découvrir ce livre qui me paraît très accessible à un public non spécialiste. Et donc, c'est en tant que profane que je vais mener cet entretien avec mon collègue. Et je me rassure en pensant que peut-être il y a le public, parmi le public ce soir, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas spécialistes ou expertes en psychiatrie. Alors, justement, nous avons la chance d'avoir sous la main cet ouvrage qui se lit aussi comme une histoire problématisée de l'antipsychiatrie et de la psychiatrie, en tout cas de certaines séquences de la psychiatrie, surtout à partir des années 1960. Mais évidemment, il s'agit d'abord d'un livre de philosophie et qui pose un certain nombre de problèmes sur lesquels on va revenir ce soir. Eh bien, donc, Steve, j'aimerais commencer par une question concernant ce problème épistémologique que tu poses très clairement dès le début du livre au sujet de la maladie mentale. Donc, est-ce que la maladie mentale, ça serait une catégorie naturelle ou plutôt une construction sociale? Est-ce un fait ou une valeur, pour reprendre l'opposition classiquement philosophique? Et on voit bien en te lisant que la voie antinaturaliste, qui ferait de la maladie mentale une simple construction sociale, comme le fait l'Hongrois Thomas Schasch dans son article « Le mythe de la maladie mentale », ça conduit logiquement, tu le montres, effectivement, à l'abolition de la psychiatrie. Si ce n'est pas une science, eh bien, ça conduirait à son abolition. Alors, un point très fort dans ton livre, il me semble, c'est de montrer cette sorte d'alliance objective, voilà, entre cet antinaturalisme et les politiques néolibérales des années 80, qui conduisent à la dégradation des services publics en général et des soins psychiatriques en particulier. Donc, il en découle évidemment une non prise en charge ou un abandon des patients qui sont bien entendu les plus concernés dans cette affaire. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par ce point qui me paraît d'actualité. En quoi cet antinaturalisme de principe pourrait conduire, en théorie ou en pratique, à ce que tu appelles justement la misère de la psychiatrie?
Oui, merci. Alors, c'est l'un des points les plus techniques du livre. J'y ai consacré beaucoup de travaux ces dernières années. C'est un débat très pointu en philosophie de la psychiatrie que d'essayer de définir correctement ce que c'est qu'un trouble mental ou une maladie psychiatrique. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Là, j'ai essayé de ramasser ça vraiment à l'essentiel en quelques pages sans perdre le lecteur. Mais disons qu'il y a une question qui se pose depuis très longtemps, effectivement, c'est de savoir si ce qu'on appelle les maladies mentales sont de vraies maladies ou des constructions sociales. Question qu'on se pose pas quand on parle d'un cancer ou de la tuberculose. Et donc, cette question, effectivement, elle est ancienne et elle est très connotée politiquement puisqu'elle commence à se poser justement dans un contexte très particulier dans les années 60-70 quand la psychiatrie est attaquée par des universitaires, par des soignants eux-mêmes, pour ces dérives. Et donc, ce débat est vraiment important dans la mesure où, évidemment, la position qu'on va avoir par rapport à la psychiatrie dépend de la manière dont on envisage si ce sont de vraies maladies ou si ce sont juste des constructions sociales. Donc là, il y a plusieurs camps. Alors, je vais pas résumer ici ce débat qui est très théorique, mais il est évident que si vous défendez l'idée que les maladies mentales, ça n'existe pas en vrai, que ce sont de simples constructions sociales, certains vont jusqu'à dire que ce sont des mythes ou des stéréotypes, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des comportements bizarres et puis ont inventé une étiquette pour épingler leur comportement, on va dire que c'est une maladie, eh bien évidemment, en faisant ce geste, vous cassez, vous détruisez la légitimité même de la discipline. Alors, c'est pas obligé. Vous pouvez très bien être antinaturaliste et défendre une certaine position de la psychiatrie. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est quelque chose que j'ai pas fait dans mes travaux antérieurs, c'était de repolitiser ce débat qui a eu tendance, en devenant un débat universitaire, de philosophe en gros, à être dépolitisé. C'est qu'on s'est intéressé vraiment qu'aux arguments, qui sont des arguments extrêmement pointus, en prenant des comparaisons justement avec des maladies qui sont mieux définies pour voir de quoi il s'agit en psychiatrie. On a eu tendance justement à se concentrer sur des questions très très techniques d'un point de vue épistémologique et évacuer des questions qui étaient pourtant massives d'un point de vue social et politique. Un exemple classique, c'est la querelle autour de l'homosexualité, puisque vous savez que l'homosexualité pendant très longtemps a été considérée comme une maladie mentale. Il faut attendre 1973 pour que ce soit dépathologisé, c'est-à-dire pour que ça sorte des classifications officielles aux États-Unis. Eh bien, la querelle autour de l'homosexualité, c'était pas seulement une querelle épistémologique, c'était lié à quelque chose qui se passe dans les années 50-60 avec l'activisme de la communauté gay qui revendique d'une manière différente de vivre sa sexualité, de dire bah voilà, on ne souffre pas d'un trouble mental, on souffre surtout de la stigmatisation sociale, et c'est surtout ça qu'il faut changer. Donc il y a cette question des valeurs qui rentre en compte, des stéréotypes, et puis il y a la question aussi de est-ce qu'il y a certains dérèglements de l'esprit, du cerveau, qui méritent ou pas d'être appelés maladie mentale. Donc ça, c'est un débat qui est très pointu, très technique. Il y a une littérature énorme. J'ai essayé là, dans ce livre, d'en faire une synthèse en essayant de rappeler justement d'où vient ce débat et en quoi il a alimenté, à tort ou à raison, le débat de l'antipsychiatrie dans les années 60-70.
Merci beaucoup. Un des points forts de ton livre, c'est aussi de nous faire découvrir cette figure centrale pour ton travail, mais qui est sans doute méconnue comparée à d'autres figures du grand public, donc qui est Peter Sedgwick, et qui serait pour toi un phare dans la nuit, comme tu l'appelles, et auteur de cet ouvrage qui s'appelle Psychopolitics, donc politique, comment tu traduirais, psychopolitique,
ouais. Psychopolitique,
ouais. Voilà, et donc on comprend l'intérêt hein, de cet auteur qui ne cède ni sur l'ambition scientifique de la psychiatrie, ni sur la critique de son rôle social et politique. Est-ce que donc tu pourrais revenir un peu sur cette figure, pourquoi il a été si important pour toi?
Alors, il est important. Donc, c'est un auteur malheureusement trop méconnu. Hein. C'est un psychologue anglais qui est l'auteur d'un seul livre qui s'appelle Psychopolitics, publié en 1982. Et malheureusement, l'auteur meurt l'année suivante, hein, sans doute d'un suicide. C'est un auteur, on dirait aujourd'hui, qui était concerné dans la mesure où il n'a jamais caché les grandes difficultés qu'il avait lui-même dans sa vie. Il était très dépressif, mélancolique. C'est possible qu'il se soit suicidé, comme je disais. Et c'est un auteur assez particulier parce qu'il est extrêmement pointu d'un point de vue épistémologique, tout en menant une enquête d'un point de vue politique. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que souvent, on joue l'un contre l'autre. C'est qu'on joue souvent l'épistémologie en disant « on ne veut pas politiser les choses », ou alors quand on politise, on a tendance à rejeter la question épistémologique. Lui essaie de tenir les deux, et je trouve qu'il le tient de manière équilibrée, les deux questions ensemble. Et puis surtout, Peter Sedgwick est un auteur un peu poil à gratter, dans la mesure où c'est un auteur qui est un auteur marxiste, hein, d'où le titre « Misère de la psychiatrie », un clin d'œil à Marx. Donc c'est un psychologue marxiste, très très impliqué dans le courant de la New Left en Angleterre à l'époque. Et c'est un auteur marxiste qui navigue, si vous voulez, à contre-courant, dans la mesure où l'antipsychiatrie, de manière assez générale, était plutôt de gauche, on va dire, dans les années 50-60. D'accord ? Que ce soit Foucault, que ce soit Goffman aux États-Unis ou d'autres. Lane Cooper en Angleterre, et lui, lui en fait, il va mener une critique qui est assez étonnante, c'est de critiquer l'antipsychiatrie par sa gauche. Souvent, elle est plutôt critiquée par les courants plutôt réactionnaires. Et ce qu'il va reprocher à l'antipsychiatrie, d'une certaine manière, c'est de pas suffisamment se soucier de la condition des malades mentaux. Et ça, c'est ce qui fait de Peter Sedgwick un auteur aujourd'hui très très important, puisqu'on peut le considérer comme l'un des pionniers, hein, même s'il faut toujours se méfier de ce terme de pionnier, des mouvements, des usagers en psychiatrie, l'idée qu'il faut que donner du pouvoir aux patients de décider de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils ne veulent pas, de ce qui compte pour eux. Et donc, il a mis le doigt sur des difficultés qui sont très très anciennes, et en gros, hein, là je simplifie un petit peu ce soir, mais sa critique revient à dire que l'une des erreurs de l'antipsychiatrie, a été, en menant une critique qui était pertinente, qui était tout à fait justifiée, hein, les asiles étaient désastreux, les méthodes n'étaient pas bonnes, il y avait beaucoup de violence pratiquée sur les patients, mais simplement, l'antipsychiatrie a fait le jeu, sans le savoir, de toute une politique qui se met en place à partir des années 60-70, qui est le tournant néolibéral, avec Thatcher en Angleterre, avec Reagan aux États-Unis, qui consiste à fermer massivement toutes les structures de soins pour les malades mentaux, qui se retrouvent hein, presque en quelques années à la rue. Et donc là, vous voyez, vous avez des figures vraiment conservatrices, néolibérales, qui ont beau jeu de dire, bah, regardez tous ces intellectuels de gauche qui disent que la psychiatrie, c'est pas bien, bah, nous, on va juste abolir la psychiatrie. On va, donc là, il y a quelque chose qui était très compliqué. Et ce qui est intéressant avec Sedgwick, c'est qu'il a senti très tôt cette difficulté qui se jouait d'un point de vue politique sur l'avenir de la psychiatrie au tournant des années 60-70. Il rejoint en cela hein, le constat qui était fait à peu près à la même époque par le sociologue Robert Castel en France.
Alors justement, quand tu passes en revue les grandes figures un peu de l'antipsychiatrie, on sent qu'il y a des auteurs pour lesquels tu as un peu plus de sympathie ou d'affinité que d'autres. Par exemple, on peut évoquer ici Fernand de Ligny. Alors, on voit que tu as voilà, beaucoup d'affinité d'une certaine manière à son égard, aussi parce que Pink Floyd le soutient et même finance son initiative, apparemment. Donc, ça fait partie des pépites hein, qu'on trouve dans ton livre. Et c'est sans doute pas la seule raison de ton appréciation de Ligny. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur cette figure et sa place singulière dans le paysage de l'antipsychiatrie?
Ouais. Alors, l'une des difficultés quand j'ai écrit ce livre, je voulais pas faire une galerie de portraits. Mmh. Je commence avec Frantz Fanon, il y a plein d'auteurs qui apparaissent, Tosquelles, Oury, etc. Mais je voulais pas comme ça focaliser sur des grandes figures devenues aujourd'hui historiques de la psychiatrie d'après-guerre. Mais évidemment, comme ce sont des figures importantes, il me revenait quand même de parler d'elles. Je voulais surtout essayer de faire un tableau d'ensemble de ce que ça a été la psychothérapie institutionnelle, de ce que c'est que la psychiatrie sociale, et surtout rappeler qu'il y a une crise aujourd'hui, on y reviendra peut-être, hein, qui est très profonde hein, par rapport à la psychiatrie, c'est que de plus en plus, on oppose le bon soin à la mauvaise science. Et j'ai voulu montrer que pendant longtemps, on considérait que le bon soin passait d'abord par avoir et obtenir de la bonne science. Et que les grands auteurs, y compris de la psychothérapie institutionnelle, n'étaient pas du tout rétifs aux innovations scientifiques. Au contraire, ils les ont accompagnés et ils étaient plutôt optimistes dans ce que les nouveaux médicaments pouvaient apporter, dans ce que certaines techniques pouvaient apporter. Donc ça, c'est le point que je voulais mettre en avant, c'était de rappeler d'un point de vue épistémologique qu'il y a une ambition scientifique ancienne de la psychiatrie qui est toujours restée fragile, mais que fallait pas pour autant y renoncer. Alors, dans tout ce travail, il y a évidemment un troublion, là vraiment une figure tout à fait à part, qui est Fernand de Ligny, qui effectivement ne peut que attirer une certaine fascination parce que c'est une figure là vraiment sans compromis. Alors, il n'est pas du tout du côté de la science. On pourrait presque dire qu'il exècre tout ce qui est de l'ordre de la standardisation et de la science. Mais c'est quelqu'un qui, dans sa démarche, auprès notamment des enfants en difficulté, a rendu, honteux un petit peu tous ceux qui faisaient des grandes théories sur ce qu'il faut faire ou pas, sans s'impliquer directement. Ce qui est assez remarquable avec de Ligny, c'est que c'est quelqu'un, d'abord un grand théoricien, un grand écrivain, un grand essayiste, mais quelqu'un qui n'a pas hésité un quart de seconde à aller vivre jour au jour le jour, 24 heures sur 24, avec des enfants dont personne ne voulait au milieu des Cévennes. Donc ça, la tentative de Ligny est quelque chose qui fixe une sorte de modèle assez fascinant encore pour nous aujourd'hui. Et puis, je voulais en parler aussi parce que c'est aussi un modèle qui est intéressant pour nous, surtout pour la question de l'enfance aujourd'hui, dans la mesure où tout est centré aujourd'hui pour bien intégrer les enfants qui sont en difficulté, et c'est quelque chose d'important. Mais l'un des là où le bas blesse aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas si c'est toujours important et pertinent pour les enfants eux-mêmes. Et il y a beaucoup de controverses et de difficultés qui se situent à ce niveau-là, au niveau de qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour les enfants qui sont en difficulté, que faire. Et de Ligny est toujours très intéressant pour nous à lire, parce qu'il a une démarche vraiment radicale qui consiste d'abord et avant tout à écouter les enfants, à vivre avec eux, à essayer au mieux de faire qu'ils puissent tout simplement vivre. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, qui est tout à fait unique dans l'histoire du soin, on pourrait dire, hein, au XXe siècle. C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas Deligny, hein, je vous encourage à lire ses textes, à regarder aussi ses films, puisqu'il a beaucoup filmé la vie en commun dans ces tentatives dans les Cévennes. Et voilà, c'est une sorte de soin sans aucune compromission. C'est ce qui reste tout à fait remarquable. Bon, donc je tenais évidemment à en parler un moment.
Merci. Alors, toujours dans le domaine de l'antipsychiatrie, un moment dans le livre, tu poses le problème de l'efficacité des psychiatres. Hein. Donc je te cite page 131, au sujet des travaux de Robert Castal, justement, que tu as évoqué. Devenir des soignants efficaces, voilà le point névralgique de la discorde qui date du début des années 1980. S'y refuser en principe, c'est impensable. S'y plier en pratique, c'est capituler. Donc, est-ce que tu pourrais revenir sur cette alternative impossible et donc sur ces débats concernant l'efficacité en psychiatrie?
C'est vraiment l'une des... je ne fais qu'effleurer le problème qui est vertigineux. D'abord, ce qui est important avec la citation de Robert Castel, c'est qu'elle a presque 50 ans. C'est que la question du soin efficace et de la question gestionnaire date pas d'hier. Elle accompagne toute l'histoire de la psychiatrie et elle était déjà très aiguë dès le début des années 80. La particularité du mouvement des années 80, c'est qu'il y a un moment où il y a une forme de renouveau positiviste dans la psychiatrie, avec de nouveaux espoirs thérapeutiques qui vont vite, malheureusement, un peu s'effilocher. Et la question qui s'est posée et qui continue de se poser, qui est vraiment le cœur épistémologique de cette enquête, hein, de cet essai d'épistémologie, c'est évidemment la question de comment on sait qu'on soigne bien quelqu'un ? Comment on sait qu'on soigne bien en psychiatrie quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est qu'un traitement efficace ? Et en fait, c'est une question qui est brutale, comme ça, qui est frontale, et qui est très difficile, en fait, parce que ce qui est le plus difficile, c'est que personne n'est d'accord sur ce qu'on appelle un traitement efficace. C'est l'une des grandes querelles qu'il y a entre les partisans des psychothérapies qui vont dire que donner un médicament, ça ne fait que soulager un symptôme, mais ça ne guérit pas en profondeur. Et d'autres qui vont dire non, regardez, là, on a, par des essais randomisés, prouvé qu'on a supprimé la plainte, ce pourquoi le patient vient, et que ça suffit pour caractériser quelque chose comme une efficacité. Toute la difficulté en psychiatrie, c'est que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est efficace ou pas, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes sur un appareil psychique qui fonctionne bien. On a à peu près les mêmes attentes sur un foie qui fonctionne bien. Ça nous semble bizarre, mais ça pose pas de problème. On est tous, autant que nous sommes, à peu près les mêmes attentes sur un rein qui fonctionne bien, un cœur qui fonctionne bien, etc. Même s'il peut y avoir des sportifs, s'il peut y avoir des sédentaires, on peut le vivre différemment. Par contre, l'appareil psychique, c'est très très compliqué, puisque là, les normes sont beaucoup plus variables, la manière, nos attentes sont beaucoup plus variables, et dans ce cas-là, définir ce qui est de l'ordre du rétablissement, de l'ordre de la guérison, est beaucoup plus compliqué. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut tomber dans le relativisme et dire « bon, on s'en sortira pas, cette question reste, ou alors c'est que l'individu qui décide ». Je pense qu'il y a un moyen terme, une manière de réfléchir, d'essayer de mener des enquêtes. Il y a beaucoup de travaux très récents qui ont changé la manière, par exemple, d'apprécier l'efficacité d'un médicament. Pendant longtemps, on prenait un patient standard. De plus en plus, on prend en compte l'avis des patients. On se rend compte que le dosage peut être très différent selon les patients et que ça change beaucoup de choses pour des patients bipolaires, etc. Donc là, il y a des choses il y a des progrès qui sont faits et qui continuent d'être faits. Mais il est vrai, et c'est l'une des grandes difficultés, qu'en psychiatrie, tout particulièrement, contrairement au reste de la médecine, il y a ce que j'appelle un dissensus dans le dissensus. C'est que non seulement on n'est pas d'accord sur ce qui guérit ou pas, psychanalyse, psychotrope, en gros, par exemple, non seulement on n'est pas d'accord sur ça, mais il y a un dissensus dans le dissensus, c'est qu'en plus, on n'est pas d'accord sur ce qu'on entend efficacité, ce qu'on entend guérison. Et ça, c'est vraiment une difficulté de, très profonde et ancienne qui n'est pas encore réglée.
Merci. Alors justement, tu viens d'évoquer la psychanalyse. Justement, il n'en est pas beaucoup question dans le livre, enfin par moment, mais j'aimerais t'interroger sur ta position concernant la psychanalyse. Est-ce que pour toi, c'est un domaine intérieur à la psychiatrie scientifique ou est-ce que c'est un domaine complètement à part? Comment tu... Question massive, hein, mais comment tu vois les...
Alors, effectivement, merci pour cette question, parce que je parle beaucoup de la psychiatrie scientifique, et je n'ai absolument pas peur d'intégrer la psychanalyse dans le champ de ce que j'appelle la psychiatrie scientifique, dans la mesure où, depuis Freud, il y a toujours eu une prétention scientifique de la psychanalyse, c'est-à-dire à travers ses théories, à travers la mesure de son efficacité. Hein, contrairement à un leitmotiv, la psychanalyse a toujours cherché à prouver son efficacité. Il y a un des très beaux livres de Vicentini sur un siècle de controverse sur l'efficacité de la psychanalyse qui montre que les psychanalystes ont toujours cherché empiriquement à montrer que leur pratique fonctionnait. Et malheureusement, il y a pas seulement la misère de la psychiatrie, il y a aussi la misère de la psychanalyse, dans la mesure où en France, il y a toujours une relation très compliquée entre la psychiatrie universitaire et la psychanalyse, depuis Lacan, etc. Et autant dans les années 60-70, la psychanalyse avait une forme d'hégémonie à la fois dans le champ psychiatrique et dans le champ culturel. Aujourd'hui, elle est extrêmement fragilisée. On peut le voir avec le dernier rapport de la Haute Autorité de Santé sur les pratiques de bonne recommandation et la question de l'autisme. Alors, c'est une question très compliquée, je ne l'aborde pas là, mais on pourra peut-être y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Hein. Mais c'est un enjeu... Voilà, c'est très très compliqué pour le dire simplement. La psychanalyse a eu beaucoup de théories sur les enfants autistes et le rapport notamment des mamans des enfants autistes. Et il a souvent été reproché aux psychanalystes, à juste raison, de culpabiliser les mamans. D'accord. Donc ça historiquement, c'est attesté, il y a eu cette chose-là. Maintenant, il y a quelque chose qui a complètement changé. Alors, plus aucun psychanalyste aujourd'hui culpabilise les mamans, etc. Il y a plein de prises en charge qui sont très, très subtiles, qui consistent à faire attention, justement, à ce que l'enfant aussi a à dire, avant d'écouter les parents. Et malheureusement, ce qui apparaît dans ce rapport de la Haute Autorité de Santé, c'est que le discrédit sur la psychanalyse a été jeté. Moi, en tant qu'épistémologue, si ça avait été jeté que sur, par exemple, la pratique du packing, vous savez, la pratique du packing, ça consiste à entourer les enfants qui sont en difficulté. C'est une pratique qui n'a pas montré son efficacité, etc. Donc, c'est une pratique psychanalytique. C'est le but d'une haute autorité de santé de critiquer ça. Voilà, si ça s'arrêtait là, ce ne serait pas gênant. Il y a eu un pas beaucoup plus avancé qui a été fait, ça a été de délégitimiser toute forme de pratique psychanalytique. Et là, je pense que c'est mal avisé. C'est mal avisé parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est plus finalement politique qu'épistémologique, et ça se voit quand on lit le rapport attentivement. Il y avait des demandes très nettes de certaines associations de parents qui sont vraiment en guerre par rapport à la psychanalyse, et loin qu'il y ait un consensus, même dans les votes, on voit qu'il y a un dissensus dans la communauté psychiatrique. En gros, ce qu'on pourrait reprocher au rapport, si vous voulez, là où il était un peu mal avisé, c'est de dire, d'accord, il reproche à la psychanalyse de ne pas avoir fait preuve de son efficacité sur la prise en charge des enfants autistes, ce qui est vrai, mais toutes les autres prises en charge, malheureusement, n'ont pas fait preuve, beaucoup plus preuve de leur efficacité. Malheureusement, il n'y a pas de choses qui marchent vraiment, justement parce qu'on ne sait pas encore tout à fait ce que ça signifie que marcher, si vous prenez la technique ABA, etc. Donc tout ça, c'est un terrain très, très litigieux qui contribue, si vous voulez, à la polarisation extrême de la psychiatrie aujourd'hui dans le débat public, et qui fait que les soignants eux-mêmes sont les premiers perdus dans cette querelle qui oppose un petit peu, si vous voulez, les universitaires aux soignants des CMP, soignants de terrain, qui opposent la pédopsychiatrie au reste de la psychiatrie, qui oppose un peu tout le monde. tout ça, et c'est aussi un des points du livre, hein, tout ça dans, évidemment, c'est valable pour la psychiatrie comme pour le reste de l'hôpital, dans un contexte extrêmement délétère au niveau du soin. L'un des points vraiment importants que j'ai voulu souligner dans ce livre, c'est de dire que bah, y a une crise de la psychiatrie, qui n'est pas nouvelle, qui est très ancienne, qui est presque aussi vieille que la psychiatrie, que cette crise, en fait, elle a deux faces. Il y a une crise de financement, c'est que ça reste une discipline très mal financée et dans la recherche et dans le soin, et qu'il y a une crise épistémologique, une crise de confiance dans la psychiatrie. Ce que j'ai voulu montrer, alors que je suis épistémologue, c'est que la crise la plus importante, en fait, c'est la crise vraiment du financement. C'est que la psychiatrie est sous-dotée, que si les soignants s'écharpent entre eux, c'est parce qu'il y a de moins en moins de moyens, et qu'il y a quelque chose, sans doute, dans les représentations des politiques, des décideurs, qui est étrange, c'est qu'on reconnaît tout à fait que pour soigner des cancers, pour soigner des maladies infectieuses, il faut des gros appareils, il faut beaucoup d'investissements, etc. Dans la psychiatrie, on considère que parce que pour soigner, on a besoin de beaucoup d'humains, beaucoup on pourrait faire des réductions là. Non, la psychiatrie, c'est du soin qui coûte très cher. Et le seul moyen de bien soigner les gens, c'est d'accepter politiquement ensemble que ça coûte très cher. On ne pourra pas soigner bien les patients si on fait des réductions, on coupe dans les services. Et c'est ça qui affecte le plus, je pense, la psychiatrie en France et ailleurs. C'est qu'on voudrait pouvoir réduire les coûts en soignant mieux. Je pense que là, il y a quelque chose où il faut choisir. C'est pour ça qu'aussi Peter Sedgwick est intéressant, parce que Peter Sedgwick met en avant la solidarité sociale dans la manière d'aborder cette question. Donc ça, c'est le pan vraiment politique sur si on veut une bonne psychiatrie, eh ben, il faut qu'il y ait des moyens. Il ne faut pas juste que ce soit une cause de santé mentale au rabais. Il faut d'abord que ce soit accompagné de financement. Et puis l'autre question épistémologique consiste à dire que peut-être qu'on est, on a tendance à être peu charitable par rapport à la psychiatrie, qu'on attend trop d'elle, qu'on désespère trop. Alors, il ne s'agit pas d'être trop optimiste, il ne s'agit pas de tomber dans les promesses répétées des scientifiques qui nous disent « demain, on va guérir la dépression, demain, on va guérir telle ou telle maladie ». Il faut toujours être très critique, très prudent. Simplement, je voulais mettre en avant le risque qu'on trouve très souvent d'une forme de nihilisme par rapport à la psychiatrie qui consiste à dire qu'il n'y a rien de bon et que rien de bon ne peut sortir des recherches aujourd'hui. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des progrès qui sont modestes, qui continuent d'être faits et qu'il faut être attentif par rapport à ça. En gros, si je peux essayer de résumer, et c'est pour ça que l'antipsychiatrie est intéressante, c'est que dans l'antipsychiatrie, si on remonte dans les années 60, quand on critiquait la psychiatrie, on la critiquait en disant que c'était une pseudo-science. On disait, il y a la vraie médecine qui marche, qui est efficace, et puis il y a une discipline qui n'est pas bien fondée, qui a des pratiques bizarres, avec la lobotomie d'abord, avec les électrochocs ensuite, des pratiques qui sont violentes et qui ne marchent pas. Et en fait, c'est une pseudo-science. Aujourd'hui, le rapport critique à la psychiatrie est très différent, dans la mesure où, en fait, quand on écoute et quand on lit les critiques de la psychiatrie, il y a quelque chose qui est bizarrement encore plus pessimiste, dans la mesure, c'est plus de dire « il y a la bonne science et puis il y a la psychiatrie », c'est de dire « il y a la médecine scientifique de manière générale, dont tout le monde se méfie, et la psychiatrie, c'est encore pire ». Il y a quelque chose qui est une crise de confiance très profonde. Et ça, c'est l'un des thèmes que j'ai voulu aborder, de dire à quoi tient cette crise de confiance qui porte sur la médecine et surtout sur son modèle biomédical. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut espérer faire pour améliorer la confiance publique dans la science sans tomber dans les béni-oui-oui du solutionnisme technologique. Donc ça, c'était un des enjeux. C'était vraiment essayer de critiquer une forme de nihilisme épistémologique en rapport avec la psychiatrie, c'est-à-dire d'être juste un petit peu plus charitable sur le fait, oui, malheureusement, c'est très, très compliqué, les maladies de l'esprit. Oui, il y a du dissensus, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord, mais que c'est pas, voilà, c'est aussi le jeu de la science, et puis ça avance lentement, il faut non pas appeler à la patience, c'est compliqué quand on est soi-même atteint, mais en tout cas voir que y a des patients qui, avec les traitements qui existent aujourd'hui, vont mieux, et que les médecins sont travaillent difficilement pour que leurs patients aillent mieux. Donc il y a vraiment quelque chose, hein, ça se termine par il faut défendre la psychiatrie, dans le sens où c'est une discipline qui est mal aimée, qui est mal financée, et je pense malheureusement à tort.
Donc j'aimerais rebondir sur cette question justement de la portée politique et institutionnelle de tes analyses. Et en fait, en lisant le livre, hein, on sent une sorte de basculement, presque, en tout cas de changement de ton, quand tu nous rappelles que la psychiatrie, ce n'est pas seulement une discipline scientifique, c'est aussi un secteur professionnel de soins. Et donc, les soins psychiatriques, tu nous le rappelles, c'est le premier budget de l'assurance maladie avec 14 000 psychiatres en exercice, sans oublier bien sûr les soignants, donc infirmiers et autres qui interviennent dans ces services, et sans doute les centaines de milliers, si ce n'est plus, de patients pris en charge dans ces conditions difficiles, de plus en plus difficiles et dégradées, du service public de soins. Et alors, bien sûr, sur ce point, sans tomber dans le comparatisme et dans le misérabilisme, les enseignants aussi peuvent se reconnaître assez facilement aujourd'hui dans cette injonction qui nous pousse à mieux faire avec moins de moyens, réaliser donc cette chose impossible. Et à ce sujet, d'ailleurs, on parle effectivement beaucoup de burn-out des soignants. Ou des enseignants d'ailleurs, et pour toi, ce n'est pas un concept pertinent, donc tu en fais la critique dans le livre, et tu proposes plutôt de s'intéresser à ce concept. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la traduction que tu proposes, traduction un peu modifiée de ce terme de blessure de trahison morale. Mm-hmm. Donc, pour blessure de trahison morale, pour indiquer cette situation justement où on se sent presque coupable envers le public. De le prendre en charge dans ces conditions aussi dégradées, si je comprends bien le sens de ce concept dans ton travail. Quand tu expliques justement que la souffrance au travail des soignants, ce n'est pas la somme des souffrances individuelles, chacun faisant son burn-out dans son coin, c'est une démoralisation par l'état du système de santé. Donc là, on a une politisation directe, effectivement, de ce domaine. Et qui est une blessure morale quand on est face au public. Et donc, à partir de là, il y a cette politisation de la question qui t'amène aussi à faire une analyse en termes d'exploitation capitaliste des travailleurs. Tu rejoins les travaux de Emmanuel Renaud, par exemple, et la critique qu'il fait de l'exploitation capitaliste. Tu regrettes le faible taux de syndicalisation dans le métier, par exemple. Et donc, à la fin de cette partie, tu écris, je te cite, « Pour abolir la contention, il est essentiel de commencer par abolir l'exploitation. Mm-hmm. À cet égard, les modèles de Saint-Alban, de la Borde ou de l'asile de Gorizia restent toujours d'actualité. » Donc là, on a un petit air de mai 68 en te lisant. Et puis, on voit que tu rejoins parfaitement l'orientation anticapitaliste de l'antipsychiatrie, ça fait beaucoup de anti. Donc, est-ce que tu pourrais revenir sur ce point, voilà, pour clarifier ce que tu retiens de cette veine anticapitaliste et comment tu envisages de l'actualiser aujourd'hui?
Tout part du constat, il y a beaucoup d'études qui le montrent, que les mauvais soins en institution, ça existe encore, malheureusement, des contentions abusives, etc., sont réalisées là où il y a les moins bonnes conditions de travail aussi des soignants. C'est-à-dire qu'il y a des fautes des soignants, il ne faut surtout pas les cacher, il faut les condamner, mais il y a aussi des conditions qui sont très dégradées d'exercice, qui font que les soignants font au mieux et qui sont très mal au quotidien sur comment on fait quand on a un patient qui va mal, qui est violent et qu'on n'a pas la possibilité de passer beaucoup de temps avec lui, sinon de le sédater. Donc c'est une question qui est ancienne, comment on fait avec les patients violents ou difficiles, et cette question relève du bon soin et aussi des conditions de travail des soignants. Et j'ai voulu insister, alors le burn-out, j'ai rien contre, c'est quelque chose qui a été une catégorie, qui s'est développée dans les années 70-80, qui a été vraiment importante, qui a été développé d'abord par Christina Malache. Et le premier intérêt du burn-out, c'est que contrairement à la dépression, c'était une catégorie qui indiquait une fragilité individuelle, mais qui mettait en avant le fait que ça n'apparaissait pas dans n'importe où. C'était souvent quand on avait des conditions de travail excessives qu'on peut faire un burn-out. L'intérêt de cette catégorie par rapport à la dépression, c'est que ça ne renvoyait pas juste à une souffrance individuelle, à une défaillance ou à un échec individuel, mais ça renvoyait aussi à des conditions de travail. On a du burn-out dans certaines professions plus que d'autres, et les études ont montré justement que, alors, selon des professions, on peut avoir des taux de burn-out différents et que les soignants sont particulièrement exposés. Alors, certaines catégories de soignants, notamment les psychiatres, mais aussi les chirurgiens, etc., les anesthésistes, à quelque chose qui est une sorte de moment de décompensation, on n'y arrive plus et... on craque moralement. Donc cette catégorie a été très utile et elle continue de l'être parce qu'elle permet d'aider les individus. Tout le problème, c'est qu'il y a toujours un équilibre entre est-ce que le burn-out, on a tendance à le tirer du côté de la politique ou on a tendance à le tirer du côté de la psychologie. Si vous lisez un traité de burn-out fait par un manager d'hôpital, ils vont dire bah voilà, c'est une vulnérabilité individuelle et en fait, il n'était pas fait pour ce métier-là. Vous voyez, on renvoie à une fragilité individuelle. Si vous regardez du côté justement des philosophes politiques, etc., ils vont dire non, mais là, ça indique plutôt des difficultés structurelles qu'on peut retrouver dans l'éducation, qu'on peut retrouver dans des tas de domaines. Donc, on a cette fragilité-là dans le burn-out, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle tire vers le social, mais elle reste quand même profondément individuelle et psychologisante. L'intérêt d'une nouvelle catégorie qui a été développée par un chirurgien et une psychiatre américaine, Dean et Talcott, c'est en anglais « moral injury », que je traduis par blessure de trahison morale, c'est que c'est une catégorie qui met plus l'accent justement sur les conditions de travail et moins l'accent sur les vulnérabilités individuelles. En gros, voilà, je l'explique dans le livre, hein, mais ces deux auteurs reprennent cette catégorie d'un chercheur sur qui travaillait, dont Jonathan Shea, sur le traumatisme des anciens combattants du Vietnam. Et souvent, quand on se représente les troubles de stress post-traumatique, vous voyez, PTSD, des soldats, on imagine souvent, et c'est souvent le cas, que s'ils sont traumatisés, c'est parce qu'ils ont vécu des horreurs. Ils ont vu et ils ont subi des horreurs de la guerre. Shea avait fait une étude qui était assez étonnante, dans un livre remarqué, hein, c'est Achille au Vietnam, qui montrait qu'il y avait d'autres traumatismes qui étaient bien plus présent qu'on l'imaginait, qui tenait pas tant à la confrontation avec les horreurs de la guerre, mais qui tenait en réalité à une forme de blessure, vraiment de blessure morale, vous voyez, blessure morale, moral injury, qui tenait au fait que, en fait, quand on est sur le terrain de guerre, on le voit actuellement, sur ce qui se passe, malheureusement, les exemples ne manquent pas, qu'on demande aux soldats souvent de faire des choses dont ils ne peuvent pas tellement s'enorgueillir quand ils reviennent à la maison. Et donc, il y a souvent un décalage énorme entre les valeurs très héroïsantes qu'on donne dans le débat public sur les soldats qui sont là pour la paix, etc., et ce qu'on demande faire sur le terrain de la guerre, où on leur demande d'assassiner des civils, de faire des choses qui sont contre l'éthique même de ce pourquoi, quelquefois, ils se sont engagés. Et donc, il y a beaucoup de soldats, donc les psychologues se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de mal à parler de ça, et ils pouvaient en parler ni à leurs proches, ni même, quelquefois, aux soignants, et que c'était très présent. D'accord, cette question-là, notamment au Vietnam, quand ça s'est passé. Eh bien, en fait, Dean et Talcott, alors, toute proportion gardée, comme on dit, se disent, bah, en fait, c'est très présent aussi chez les soignants, cette espèce de trahison morale, où d'un côté, on met en avant le serment d'Hippocrate. Alors, le serment d'Hippocrate, c'est quand même, mon premier souci, c'est le patient. C'est ça, le serment d'Hippocrate. Hein. Si je trahis ces mots, etc., eh bien, que je sois déshonoré, etc. Donc, le patient en premier, c'est comme ça que les soignants sont formés, etc. Et pourtant, de plus en plus dans les services, à tous les niveaux, on leur dit, il faut gérer, il faut pas multiplier les choses, etc. Et ils sont tout le temps pris dans une contrainte où il faut qu'ils soient bons gestionnaires tout en soignant les patients, quelque chose qui est tout à fait intenable. Où il faut bien soigner le patient, mais il faut faire tourner les lits, etc. Et en réalité, ce qu'on constate, ce qui est très intéressant, contrairement au burn-out, c'est que ça met plus l'accent sur les causes structurelles, sur le fait qu'il y a quelque chose qui va pas quand on demande des injonctions contradictoires aux soignants, où il faut qu'ils soient à la fois bons gestionnaires et qu'en même temps, ils soient tout à fait dévoués à son patient. Il y a quelque chose qui forcément craque à un moment, et quand ce n'est pas l'individu, c'est le système. Hein, ça s'est vu. Alors c'est intéressant, c'est que cette catégorie, elle est valable aussi bien en France, là où il y a un déficit de financement, qu'aux États-Unis, où ce n'est pas un déficit de financement, c'est la financiarisation extrême qui fait que c'est surtout des cliniques privées, etc., où on pousse à ce que les soignants contribuent à la rentabilité des établissements dans lesquels ils travaillent. Donc là, c'est la financiarisation extrême qui contribue à ça, en se disant « mais j'ai pas fait ce métier pour ça », c'est-à-dire la perte de sens qu'il y a dans le soin. Donc ça, je trouve que cette catégorie, elle est intéressante parce qu'elle renvoie à quelque chose qui est souvent de l'ordre du vécu pour les soignants. Alors après, je termine, effectivement, tu pourrais dire « on pourrait faire un pas, certains pourraient considérer presque extrême, mais un pas supplémentaire, à dire « mais tout simplement, voilà, comme l'a bien montré Emmanuel Renaud dans son livre « Abolir l'exploitation », de dire qu'il y a aussi une forme d'exploitation des travailleurs dans le champ du social et du sanitaire, à partir du moment où, contrairement à une opinion trop répandue, on n'est pas forcément exploité quand on est esclavagisé, on peut être aussi exploité simplement quand il y a une demande dans le travail qui est excessive par rapport à la satisfaction qu'on peut tirer de son travail, quand il y a quelque chose qui ne va pas entre... Et on peut très bien aussi, c'est ce que montre Emmanuel Renaud dans son livre, avoir un sentiment d'exploitation qui est tout à fait justifié, même si on a un relativement bon salaire. Que l'exploitation capitaliste, malheureusement, elle se trouve partout, non seulement à l'hôpital ou à l'entreprise, etc. Et donc ça, c'est aussi... Là, c'est vraiment... Là, on dépsychologise complètement, parce que trahison morale, hein, c'est en train de rentrer dans le DSM, donc vous voyez, comme toute catégorie, ça finit toujours, ça risque toujours d'être retourné contre son intérêt initial. L'exploitation, c'est pas le cas. Là, ça indique directement les moyens d'agir, ça indique une forme de diagnostic et de ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire, mais encore une fois, toute cette partie-là consistait à dire, attention, c'est un essai d'épistémologie, mais c'est important aussi de pas... trop tout le temps mettre l'accent, même en tant que philosophe, sur les questions épistémologiques, et de pas voir que quand même ce qui manque dans la psychiatrie, c'est simplement et dans l'hôpital en général, dans les structures publiques en général, c'est des conditions de travail qui ne vont que en se dégradant.
Merci. Et donc j'aimerais poursuivre par une question de philosophe, mais qui me paraît importante sur cette présence discrète de Michel Foucault dans ton livre. Je sais que tu connais bien les travaux de Foucault, puisque tu fais des cours sur l'histoire de la folie à l'université, par exemple. Et donc, il est question dans le livre de la lecture que Sedgwick fait de Foucault, qui le place parmi ce qu'il appelle les vaches sacrées de l'antipsychiatrie. Mais on aimerait aussi savoir un peu ta lecture de Foucault, qui n'apparaît peut-être pas très clairement dans cet ouvrage. Tu n'évoques pas, par exemple, le pouvoir psychiatrique, donc le cours de Foucault au Collège de France en 1973, où le psychiatre apparaît donc comme une figure disciplinaire dans le dispositif asilaire. Parce que tu viens de dire, il y a quelques instants, que finalement, la critique centrale de l'antipsychiatrie dans les années 60-70, c'était de dire finalement la psychiatrie c'est une pseudo-science. Alors que le centre de la critique de Foucault, c'est qu'elle appartient au dispositif disciplinaire, qui me paraît être une critique différente, en tout cas qui peut-être mérite d'être appréciée à part. Donc voilà, quelle serait ton appréciation du... Enfin, pourquoi ce silence, ces discrétions sur Foucault, peut-être ? Et puis, quelle est ton appréciation, voilà, du travail de Foucault sur la psychiatrie ?
Alors, Foucault, j'ai commencé par là, quand j'ai fait ma thèse, et je pense que je dois le citer dans presque tous mes livres, dans tous mes articles, donc il est omniprésent. Ça reste pour moi une figure de référence, et même en vieillissant, mon admiration pour son travail ne fait qu'augmenter. Donc là-dessus, j'ai aucune difficulté. Il se trouve quand même en conclusion du livre, même si elle est discrète, c'est quand même lui que je cite à la fin. Donc j'ai pas de difficulté avec Foucault, et je rejoins un petit peu Peter Sedgwick quand il dit Histoire de la folie, c'est un immense livre qui a changé vraiment la donne. La grande difficulté, c'est politiquement, et Foucault lui-même s'en est pas tellement expliqué, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est autant surveiller, punir, c'est très clair, c'est rattaché à un activisme très net de Foucault pour abolir les prisons. Autant quand il publie Histoire de la folie et les années suivantes, il est un petit peu embarrassé parce que c'est quand même quelqu'un qui vient du champ de l'expérimentation, qui connaît, alors il s'intéresse à la phénoménologie, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais il connaît le champ, il a une formation de psychologue, donc il s'y intéresse beaucoup. Il va choisir le camp de l'antipsychiatrie un petit peu par défaut, hein, c'est pas lui qui choisit le terme. Les psychiatres lui rendent de temps, il se dit quitte à choisir un camp, je préfère celui-là. Voilà, alors je suis plus positiviste que Foucault, ça il y a aucun doute, même s'il y a certains textes de Foucault qui sont plutôt positivistes, hein, comme ça a été montré. Évidemment, tous les rapports de savoir sont toujours liés à des questions de pouvoir. Ça, il l'a très bien montré. La psychiatrie s'est construite aussi comme un pouvoir. Donc, il reste très utile par rapport à ça. Simplement, Sedgwick, je pense qu'il a raison. C'est dans Histoire de la folie. La difficulté, c'est que le livre se termine avant. Il se termine. Foucault n'a pratiquement jamais parlé de la psychiatrie du XXe siècle. Ça s'arrête à la fin du 19e siècle, et on aurait aimé. Donc, souvent, les gens font parler Foucault aujourd'hui sans savoir ce qu'il aurait pu dire. La psychiatrie du 20e siècle n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la psychiatrie du 19e siècle. Donc, c'est ça qui fait que bah voilà, qu'il y a d'autres choses à faire avec les concepts de Foucault ou en renouvelant les concepts. Mais voilà, en tout cas, ce qui est frappant par rapport à Foucault, c'est lui-même n'a jamais été très clair, hein, même si il était évidemment du côté des patients contre une forme de pouvoir coercitif de la psychiatrie. Mais ça, c'est valable pour tous les psychiatres, y compris les psychiatres qui étaient contre l'antipsychiatrie. Les gens comme De Maison, ceux qui ont construit la psychiatrie de secteur, ce sont les premiers à vouloir abolir la contention, etc. Donc c'est là où c'était important. Si tu veux, quelqu'un comme Robert Castel est plus facile à situer dans la mesure où lui, voilà, était plus directement engagé dans un rapport à la psychiatrie, à une forme de pratique de la psychiatrie, avec Guattari, avec des réseaux comme Alternative à la psychiatrie. Voilà. Foucault a fait un travail remarquable d'un point de vue intellectuel, et il a laissé un petit peu, hein, même au Collège de France, le soin après de dire ce qu'il fallait en faire. D'accord ? Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Bon, il en reste maintenant. Je reste convaincu qu'il en reste des tas de choses à faire. Mais voilà, je suis en tout cas là où je suis prudent, c'est qu'il y a une forme, je trouve, de facilité trop souvent d'utiliser Foucault pour taper, voire pour envoyer des boulets rouges contre la psychiatrie d'aujourd'hui. Et je pense que voilà, ça rend pas service à la psychiatrie et c'est pas forcément non plus fidèle à ce qu'a voulu faire Michel Foucault.
Merci pour cette clarification qui m'amène à une dernière question peut-être qui découle de ce débat autour de Foucault aussi, hein, sur la question de l'antinaturalisme, qui était peut-être un point de difficulté aussi chez Foucault, puisque dans d'autres domaines, la question se pose de savoir est-ce que ça a toujours un sens aujourd'hui d'être antinaturaliste de manière radicale. Et effectivement, ça se pose par exemple du côté de la philosophie de l'environnement, de l'écologie, etc. Et donc tu poses la question, hein, ça m'a paru assez intéressant dans le livre, une critique de l'antinaturalisme que tu mènes est en faveur donc d'un naturalisme critique, une sorte de renouveau du naturalisme qui permettrait effectivement de ne pas renoncer, hein, à la prétention scientifique de la psychiatrie. Voilà. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce débat?
Ouais, alors c'est le grand débat du 20e siècle. Je prétends pas le résoudre, hein. Celui qui parviendra à résoudre la question du naturalisme dans les sciences et dans notre rapport à la nature ou à la société sera le grand philosophe du siècle suivant. Donc c'est une question très très ancienne, très difficile. Et effectivement, en fait, ce sur quoi je voulais insister en tant qu'épistémologue, c'est de dire bah oui. Et Peter Sedgwick m'a été très utile pour ça, c'est de dire oui, on peut très bien considérer, et ça pose pas de problème aux philosophes, de dire que les maladies sont des constructions sociales. C'est toujours, il y a des constructions, les théories sont construites socialement, etc. Et ça n'empêche pas pour autant de considérer qu'il y a aussi des faits établis qui rendent légitimes, valides, comme disent les scientifiques, les catégories en question. Donc ça demande, et c'est l'une des préconisions de mon livre, hein, de prendre au cas par cas, hein, je plaide pour ce que j'appelle une épistémologie régionale, c'est de dire ne pas décider comme ça, les maladies mentales ça existe ou les maladies mentales ça n'existe pas, mais d'aller voir au cas par cas Qu'est-ce que c'en est pour les troubles du déficit de l'attention? Qu'est-ce que c'en est pour la dépression? Qu'est-ce qu'il en est pour les troubles bipolaires? Et de voir là quels sont les la part de construction sociale. Donc pour ça, on a besoin de tous les travaux des anthropologues et des sociologues. Et il y a des travaux remarquables dans le champ de la santé mentale, des travaux faits par des sociologues et des anthropologues. Et puis de voir aussi ce que l'épistémologie a à dire sur des travaux qui sont qui sont produits au quotidien et qui ne consistent pas seulement à reproduire des stéréotypes de comportement, mais qui renvoient à des tas de schémas qui peuvent quelquefois être génétiques, neurobiologiques, psychologiques, psychanalytiques, etc., et qui tentent de construire des modèles de compréhension, d'explication des maladies mentales. Je pense qu'on peut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire dire que ce sont des constructions qui ont une bonne base solide d'un point de vue scientifique. Donc en cela, c'est pas seulement du côté du constructionnisme, donc c'est une forme de naturalisme, puisqu'on reconnaît que ça existe au sens où la tuberculose existe indépendamment de nos catégories conceptuelles, que c'est pas juste des constructions, mais que et pour autant ces catégories là n'existent pas toutes seules, qu'elles dépendent de nos manières de se rapporter à nous-mêmes, de se rapporter aux autres, etc. Donc ça, c'est une position assez compliquée que j'essaie de tenir et qui essaie de revenir, hein, ça j'en suis content, hein, naturalisme critique, je le reprends justement à Emmanuel Renaud et à d'autres collègues, à quelque chose qui a été trop présent, hein, je commence mon livre par rapport à ça, en disant bah, trop souvent quand on veut se méfier du rapport de pouvoir qu'il y a dans des catégories, on a tendance à dire juste ce sont des constructions. Femmes, chômeurs, question de genre, voilà, toutes les catégories, l'intelligence, on dit bah, ce sont des constructions pour bien montrer justement quels sont quel ressort en réalité de pouvoir est présent, alors que du côté du conservatisme, des conservateurs, on a plutôt tendance à insister sur le fait que c'est comme ça depuis toujours, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, il y a eu des riches, il y a eu des pauvres, et que ce sont presque des catégories naturelles. Donc dans une perspective critique, c'est toujours bien de remettre en cause ce qu'on pense être une catégorie naturelle. Ça, c'est quelque chose qui est important, ça fait partie du travail critique. Là, je le revendique tout à fait. Maintenant, tout l'enjeu, hein, c'est la dernière phrase du livre, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de faire attention dans cette démarche critique, de ne pas aller trop loin dans ce qu'on considère être une construction sociale, et d'entendre clairement ce qu'on entend par là. Et donc Peter Sedgwick, je trouve qu'il est intéressant, hein, il rejoint un petit peu la position de Canguilhem par rapport à ça, au sens où il dit, bah oui, ce sont des constructions sociales, dans la mesure où quand on dit que quelque chose est une maladie, on sous-entend toujours que c'est mieux de ne pas l'avoir. Ça semble bête de dire ça, mais oui, ça veut dire qu'il y a un rapport de valeur, que quand on ne peut pas avoir une maladie et être content de l'avoir. Il y a quelque chose qui bloque. Donc il y a des valeurs comme ça qui dépendent de jugement, d'un état de la société, tout ça. Mais pour autant, ça n'interdit pas qu'il y a de bonnes raisons scientifiques de considérer que quelque chose est une maladie et qu'on n'est pas obligé de tomber dans une forme de relativisme ou de subjectivisme complet par rapport à ça.
Merci. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de terminer nos échanges et donc de te remercier pour ce travail et pour cet entretien.
Merci encore, Ferhat. Merci à Yves Renaud.